Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profonds encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon. Bientôt, ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
La lecture est une amitié, disait Marcel Proust. Je m'appelle Clotilde Sey, mes amis, et je suis très heureuse de vous inviter à l'émission À livre découvert.
La table des matières.
Alors, pour aller à la découverte des livres, rien de mieux que d'aller à la rencontre de ceux qui les écrivent, ceux qui les écoutent et ceux qui les lisent. Aujourd'hui, je reçois Michel Brûlé, abonné du SQLA. Je reçois Michel Plomer, une auteure que vous aimez, je le sais, parce que souvent les livres sont pris au SQLA, tous les livres de Michel Plomer. Je reçois aussi Gérard Cyr, bénévole, lecteur. Nous allons revisiter un classique, comme on le fait maintenant chaque semaine. Cette fois-ci, on va tomber dans l'univers de Françoise Sagan. Je vais vous lire aussi une lettre qu'un éditeur a écrit à Monsieur Bolduc. C'est évidemment à propos des livres et de la lecture. Et puis nous écouterons aussi quelques extraits de livres, notamment l'extrait d'une nouveauté signée Luc Mercure, également bénévole ici et auteur. Et je recevrai Luc Mercure la semaine prochaine. Et puis, bien évidemment, je vous donnerai une multitude de titres disponibles depuis peu au SQLA.
Chapitre 1. Les livres audio, ils en mangent.
Et vous en mangez, Michel Brûlé, du livre audio. Bonjour, comment allez-vous, Michel?
Oui, bonjour, ça va très bien, vous-même?
Mais je vais bien, je suis très heureuse de vous retrouver. C'est la première fois en cette saison qu'on vous retrouve.
Et puis, je voudrais vous féliciter comme ça pour votre idée de voir les grands classiques. C'est merveilleux, c'est une chose à faire parce que souvent, les gens courent après les nouveautés, et on oublie qui a justement ces livres fabuleux et on en oublie même la langue dans laquelle ces livres sont écrits.
Alors,
Oui.
Voilà. Ben écoutez, je vous remercie parce que honnêtement, j'ai beaucoup hésité parce qu'on recevait parfois des commentaires contradictoires de gens qui nous disaient on ne veut que des nouveautés. On connaît. Mais à un moment donné, moi je suis un petit peu comme vous. Un petit côté comme ça. Bon,
il y a une langue fabuleuse. Alexandre Dumas, je me demande si nos petits-enfants seraient capables de comprendre. Et pourtant, c'est fabuleux.
Oui, absolument, vous avez raison. Michel, vous avez décidé aujourd'hui de nous parler non pas d'un livre, mais d'une série entière. Je vous laisse nous présenter cela.
Une moitié de série entière.
Ok, d'accord. Oui, parce qu'elle n'est pas encore complètement disponible,
voilà,
c'est ça.
Donc, et puis pour une fois, je ne suis pas de notes, j'improvise. Alors, on y va. J'ai pas l'habitude, en fait, je ne vous ai pas habitué à ce que je parle de saga familiale. Mm-hmm. Ici, il s'agit d'un autre, Michel Langlois, la série s'appelle Les gardiens de la lumière. Et les tomes 1 et 2 ont paru en 2013, je pense, peut-être 2013. Mm-hmm. Puis les derniers paraîtront là, incessamment en 2014 et puis
c'est
début
ça.
2015.
Oui, le dernier, c'est ça. Ça va arriver au printemps 2015. Ça.
Alors, on peut déjà... Et puis, la raison pour laquelle j'ai voulu en parler, c'est que c'est une des meilleures séries de Langlois que j'ai lues. Puis... Pour moi, en tout cas, il me semble, c'est qu'on apprend tellement de choses là-dedans. Je suis pas une fan des sagas familiales, mais cette fois-ci, ça a rapport à l'île d'Anticosti, toute l'histoire de l'île. Comment les gens ont vécu sur cette bande de terre de 200 quelques kilomètres de long et isolée du monde 6 mois par année. Et Gardien de la lumière, pour en revenir au titre, ça identifie les gardiens de phares.
Ah, oui,
il y avait plusieurs phares dans l'île et puis un de ces phares-là qui est gardé. Alors, c'était en fait ça des propriétés fédérales, des gouvernements fédéraux. Et puis, un des gardiens, c'est justement le patriarche de la famille qui va être suivi durant la série, qui s'appelle Wilfrid Cormier. Puis dans le deuxième tome, ce sera son fils Laurent. Puis dans les trois, les deux autres, je sais pas. Bon. Toujours est-il que moi, ce que j'ai bien aimé dans le premier tome, qui s'appelle « Maître chez soi », la façon dont ces gens-là vivent, la terre ne leur appartient pas, mais ils cultivent, ils chassent, ils pêchent, comme si finalement ça leur appartenait, ils sont heureux. Et avant de les voir, on voit toute une chronologie là, de l'île, l'histoire de l'île, du temps, à partir de Louis Joliet, par exemple, quand ça lui a été concédé en 1680 quelques, et puis sa famille, et puis après ça, tout un chacun a racheté ça, des compagnies qui s'en sont à peu près pas occupées, mais qui avaient soi-disant des projets faramineux, il achetait ça pour une bouchée de pain. Ça fait-tu penser à quelque chose qu'on connaît aujourd'hui?
Oui, c'est, écoutez, j'allais vous le dire.
Le pétrole.
Oui.
Alors, ça semble. Et puis, un moment donné, les gens, ils sont habitués à ça. Alors, ils vivent sans trop d'inquiétude. Ils font ce qu'ils veulent. La terre, ils sont contents d'être chez eux. Ils se sentent très bien chez eux. Moi, une chose que j'ai trouvée drôle, parce qu'il y a toutes sortes de difficultés quand tu es isolé du monde comme ça, 6 mois par année, c'est quand ils vont, la maîtresse d'école. Vraiment difficile de trouver une maîtresse d'école, parce que dans ce temps-là, les femmes mariées n'avaient pas le droit d'enseigner.
Ah oui.
Alors, à tout bout de champ, il y a une nouvelle maîtresse qui arrive, puis là, évidemment, elle tombe en amour avec un beau petit gars de là-bas, puis bon, tu sais. Alors là, le pauvre Cormier qui s'en va encore à la recherche d'une autre maîtresse, puis ça prend encore un autre 6 mois avant de l'avoir. Puis en tout cas, c'est toute une affaire. J'ai trouvé ça belle fun. Et puis on apprend beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. C'est vraiment bien dit, c'est vraiment bien raconté.
C'est ça, parce que lorsque l'île est rachetée par la fameuse famille Meunier, les chocolats Meunier, là, ça va changer un petit peu.
Ça va changer, ça va tellement changer qu'on va arriver au tome 2.
Okay.
Et dans le tome 2, on a appris pas mal de choses, on sait comment ça se passe dans l'île, mais là, dans le tome 2, c'est toutes les améliorations époustouflantes, un rythme époustouflant qu'ils vont se faire là. Ils vont même se payer un musée, un château, puis bon, les routes qui sont ouvertes, dans le temps de le dire, puis enfin, les animaux qui sont introduits là, pour le bon plaisir du Seigneur, n'est-ce pas, avec
bien
les chevreuils en particulier, qu'on connaît bien.
Oui.
Et ça, c'est l'antithèse de ça, c'est évidemment comment l'administration s'arrange pour faire accepter ça par la population. Parce que là, la terre appartient à Meunier. D'accord?
Oui.
Tout appartient à Meunier. La moindre petite framboise que tu t'en vas cueillir, ça appartient à Meunier. Tu n'as pas le droit de cueillir, tu n'as pas le droit de chasser, de pêcher, de cueillir de la gomme de sapin à toi, à ton compte. Tout appartient à Meunier. Puis, il dit, regarde, c'est pas grave, on va t'habiller, on va te nourrir, on va te loger, on va même te donner un salaire suffisant pour te procurer l'essentiel. Ben où ça? Où tu te procures l'essentiel?
Eh oui.
Dans ses entrepôts à lui, tu sais, qui sont sur l'île. Alors, ça, c'est l'antithèse que je voulais souligner dans ce livre, ce qui m'a intéressé, parce qu'il y en a un là-dedans qui va se révolter. C'est le fils, le deuxième fils Wilfrid Cormier. Et qui s'appelle Ernest, lui. Moi, j'aime bien Ernest, parce que justement, c'est le rebelle, puis je me sentais des petits atomes crochus avec lui. Alors, lui, il dit, écoute, pas question, là, ma liberté, là, ça s'achète pas. Et il n'y a personne, il n'y a pas un chat qui va m'empêcher, moi, de rentrer puis sortir de l'île comme je voudrais, parce que vous savez que ceux qui acceptaient pas les règles... Ah oui, puis il n'y avait pas le droit de boire d'alcool, pas la
Ah oui, c'est ça, tout d'un coup, en plus, il n'avait plus le droit de chasser, alors... Bon,
pas de chasser, pas de pêcher, pas d'alcool. Mais tu sais, alors lui, Ernest, mais oui, mais écoute, les gars, vous acceptez ça, le confort comme ça, mais c'est de l'esclavage, c'est toute une bande d'esclaves. Tu sais, puis moi, dans ma tête, à moi, il a raison, tu sais.
Ben oui.
Mais on peut comprendre, les gars, si tu veux. Où aller, sinon, tu sais. Alors, ceux qui n'acceptaient pas, il fallait qu'ils quittent l'île absolument, puis définitivement, puis même s'ils ne voulaient pas quitter, ils seraient forcés de le faire. Il y a même eu un procès là-dessus. peu. Et à un moment donné, René, suis-moi, il dit, moi, ils m'empêcheront pas de rentrer puis de sortir comme je voudrais, parce que, mais ils ont beau surveiller. Écoute, ils surveillent le monde qui veut revenir sur l'île ou qui veulent rentrer pour toutes sortes de raisons. Ils sont surveillés.
C'est incroyable.
Il faut qu'ils ont une patte blanche. Il faut qu'ils... Tu sais, ça prend des papiers là, comme l'immigration. Là.
Ah oui, exactement.
Ils se comportent vraiment... Ces gens-là, l'administrateur, le fameux Martin Zédé, comportent comme s'ils étaient un pays, ces gens-là, avec leurs propres douanes, leurs propres affaires. Là. C'est vraiment inouï. Alors, c'est à peu près ça l'histoire.
Oui, ben écoutez, moi, honnêtement, on le dit souvent, mais c'est vrai, et je vois opiner du bonnet aussi autour de moi, tous les invités qui sont là se disent « Oh, qu'on va lire ça !» Parce que je dois préciser que, c'est une histoire vraie, je veux dire, la famille Cormier... Elle a existé. Autrement dit, là, j'imagine qu'il y a des descendants de chez les Cormier.
Ouais.
À mon avis, de voir arriver ce que nous savons, ça ne doit pas leur plaire tellement non plus.
Ça ne doit pas leur plaire. Puis on peut compter sur Langlois, qui est un archiviste et généalogiste, pour être allé fouiller là-dedans. Puis c'est vraiment bien documenté. Et comme j'ai dit au début, c'est écrit, les phrases sont courtes. C'est très, très, très abordable, comme tous ces livres.
Bon, et c'est bien lu?
C'est bien lu.
Bon,
disons que je ne répondrai pas toujours à cette question-là, mais cette fois-ci, oui.
Je ne vais pas hésiter à la poser, parce que, regardez, ça fait partie de la vie. Et puis,
Y a des fois qu'il y a des tellement beaux livres, on n'est pas capable de les lire parce que c'est bon.
OK, alors on va passer à un autre appel. Michel Brûlé, c'est toujours un plaisir de vous parler, et ne vous inquiétez pas, même pas préparé, ça ne se sentait même pas. Vous êtes toujours délicieuse et drôle et brillante, et on vous adore. Je rappelle que vous nous avez parlé du livre, donc des deux premiers tomes de la série de Michel Langlois, Les Gardiens de la Lumière. Je m'entretenais avec Michel Brûlé. Bonne fin de journée, Michel.
Merci à vous.
Au revoir.
Chapitre 2. L'invité spécial.
Et notre invitée spéciale, elle l'a déjà compris, alors elle est tout sourire, c'est Michel Plomeur. Bonjour Michel.
Bonjour.
Auteur, ancienne aussi professeur, parce que là j'ai tellement de choses à dire sur vous, je ne voudrais pas que ça se bouscule. Je vous ai rencontré aux correspondances d'Eastman cet été, je me suis dit je veux que cette femme vienne à l'émission. Vous avez accepté vraiment tout de suite.
C'est un vrai bonheur, merci de l'invitation.
Écoutez, c'est chouette, et je vous ai invité parce qu'il y a plusieurs... En fait, on a le premier de vos livres qui est enregistré au SQLA, le Jardin Sablier, c'est bien ça. Et puis on a la série de Dragonville, et le troisième tome, qui est le dernier, vient de sortir au SQLA, donc il est disponible depuis quelques temps. Je me suis dit, mon Dieu, que ça tombe bien. Alors, je vous ai demandé de venir nous parler d'abord de Dragonville, puis aussi d'un autre livre de votre choix, un de vos coups de cœur que vous aurez envie de partager avec nous. Bonjour, Michel.
Bonjour.
Je m'excuse, vous savez, c'est tellement agréable.
On s'est rencontrés dans un moment très ensoleillé puis on dirait que le soleil va toujours être au-dessus de nous, Clotilde.
Et Michel, je précise, parce que c'est important pour qu'on comprenne peut-être mieux pourquoi ce Dragonville, que vous partagez votre vie entre les cantons de l'Est et la Chine.
Oui, et mais la pas... Chine du Sud.
Oui, mais attention, pas la Chine sur l'île de Montréal. On parle bien de la Chine en deux mots. Mais non, parce que je précise, parce qu'on ne sait jamais. La Chine du Sud.
Voilà.
Et Dragonville, il y a un peu de cela dans ce livre-là.
Oui. En fait, Dragonville, c'est une histoire d'amour.
Oui.
Où il y a plusieurs histoires d'amour dans Dragonville, c'est une histoire de destin croisé qui se déroule sur deux continents et à deux époques. Donc, on est à Hong Kong en 1910 surtout, et à Magog en 2010, 100 ans plus tard, et les personnages qui gravitent à ces deux époques-là vont se croiser de façon étonnante.
Mais attendez, j'ai du mal à mesurer ça sur le temps. Ils vont se croiser.
Peut-être pas dans la chair, peut-être pas en personne, mais leur destin.
Les destins vont se croiser. Le destin. Alors écoutez, parce que je sais que c'est une histoire quand même assez compliquée. Moi, ce que j'ai retenu beaucoup parce que je ne l'ai pas encore lu, je vais être tout à fait honnête, je souhaiterais tellement passer 24 heures de ma vie tous les jours à lire, mais j'y arrive pas. Mais j'ai relu que c'était beaucoup une histoire d'amitié et de générosité.
Aussi, oui.
En fait, expliquez-nous ça.
En fait, j'avais l'idée de de vraiment faire... Je voulais écrire une histoire extraordinaire. Je voulais que ça sorte des sentiers battus à tout point de vue. Et pour que mes personnages vivent des choses extraordinaires par l'amour, ben, ils sont aidés, hein? Ils ont...
Mm-hmm. Oui, oui, oui.
Par des amis, en fait. Oui. Donc, tout ce monde-là, les lignes entre l'amitié et l'amour, des fois, sont un petit peu floues.
Oui.
Alors, c'est tout ensemble, là.
C'est vrai.
Mais c'est essentiellement l'histoire du plus bel homme de Hong Kong en 1910. Et le plus bel homme de Hong Kong, ben, j'ai eu du plaisir à m'imaginer qui serait son amoureuse, son amante, mais rien de moins qu'un dragon. Alors ça, c'est la prémisse de départ. Okay. 1910.
Okay.
2010, l'héroïne, c'est Sylvie Matthews, qui revient d'un long exil en Chine pour ouvrir une boutique d'importation asiatique sur la rue principale à Magog. Et elle va découvrir, en faisant des rénovations, que le local était anciennement une blanchisserie chinoise.
Mmh.
Alors... Et ça, c'est vrai. Sur la rue principale à Magog, il y a eu une blanchisserie chinoise. Ils ont été expropriés en 1952. Alors, j'ai fait des recherches pour voir qui étaient ces Chinois qui étaient là. Et au niveau des archives de la ville de Magog, il y a très peu d'informations. Mais dans le recensement de 1911, il y a deux hommes à cette adresse-là. Alors, c'est pour ça que je me suis imaginée aussi, j'ai eu du plaisir, parce que quand il n'y a pas d'information, quand il n'y a pas d'archives bien documentées, c'est parfait pour une romancière.
Oui, oui, oui.
Parce qu'on invente tout.
Bien sûr.
Alors, je me suis dit, comment est-ce qu'un Chinois pourrait se retrouver à Magog en 1911? Mmh. Alors, voilà. Alors, on retrouve ce lit en 1910 et Sylvie en 2010.
Ce que je vous propose maintenant, et ce que je propose à nos auditeurs, c'est d'entendre un extrait de votre livre, de ce tome 3 de Dragonville en poids, tel qu'il a été lu ici par une personne bénévole, dont j'ignore le nom, parce qu'on ignore toujours le nom des gens qui lisent les livres. Et donc, je vous propose d'en écouter un extrait.
Ouais, formidable.
Les rives du lac bourdonnaient du murmure des fées, rives escarpées et sauvages. Les cèdres qui peuplaient son littoral étaient battus par les vents et meurtris par le passage des saisons, leurs racines s'accrochant de toute leur force à la côte pour ne pas culbuter au bas des palissades d'ardoises dans des eaux insondées. Les fées nichaient loin de l'eau, à ras le sol, dans la sécurité des labyrinthes de mousse dense et de champignons non comestibles. Le jour, elles épiaient les hommes qui peinaient à labourer, à défricher, à dompter la terre. Le soir, elles parlaient d'eux avec des phrases ponctuées d'exclamations et de rires aigus. Pour le capitaine Matthews, le lac était une île paisible, un lieu de refuge contre le vacarme des humains et des fées. Une oasis dans la dureté de la terre. Il s'étonnait que jamais un passager du Mistress of the Lake n'ait demandé de rester à bord à demeure. De son poste de pilotage sur le pont supérieur, sentinelle de bois blond équipée d'instruments de navigation en laiton astiqué, le capitaine Matthews avait repéré un flottement mou dans le ciel du soir, un ondoiement de coton tissé dans l'usine de la ville. Un drapeau était hissé au bout du mât sur le quai de la propriété des Macpherson. Sa main imprima doucement une pression sur la roue vernie pour y mettre le cap. Une caresse plus qu'une commande, à laquelle le majestueux Mistress répondit, telle une amante.
Vous êtes touchée?
Oui, beaucoup. C'est vraiment un cadeau pour moi que d'entendre cette... De m'entendre
lu par une autre voix.
Par une autre voix, c'est ça.
Alors malheureusement, tout le livre ne peut pas s'accompagner, vous le comprendrez bien, d'un environnement sonore, mais je trouvais que pour un petit extrait comme ça s'imposait.
Oui, c'est magnifique. Et c'est intéressant parce que On est à Magog dans cet extrait-là, et là, il y a la musique chinoise, là. C'est tout à fait ça, le roman. En fait, c'est la rencontre des deux cultures aussi.
Je vous l'avais dit, je ne l'ai pas forcément lu, mais c'est un peu tout comme, parce que j'avais pris mes informations. Je suis bien contente. Michel Plomer, je vous rappelle aux auditeurs qui se joindraient peut-être à nous, que c'est à vous que je m'adresse. Je vous ai demandé, comme à toutes les personnes qui viennent ici, de nous partager un livre que vous avez particulièrement aimé et qui, bien sûr, est disponible au SQLA. Et vous nous avez amené...
Oui, j'ai choisi les carnets de Douglas de Christine Eddy, qui est vraiment un livre que j'adore, évidemment, et qui est un livre qui est comme un petit bijou pour moi. Mm-hmm. C'est un livre que j'ai dans ma bibliothèque et que je relis souvent, je dirais peut-être une fois par année. Oh. Je vous dirais, quand j'ai le rhume, je lis les carnets de Douglas. C'est un livre qui me fait du bien. Et où, à chaque lecture, je plonge un petit peu plus profondément et je comprends des choses nouvelles. Et en même temps, en tant qu'écrivaine aussi, on aime lire des livres qui sont bien écrits. J'ai beaucoup d'admiration pour le style, oui, de Christine, pour sa prouesse aussi. Elle a beaucoup, beaucoup le sens du rythme. Mm-hmm. Et dans un livre, une histoire où tout est très simple, c'est simplement écrit. Et on n'est pas dans la cisaille nécessairement comme avec Kim Thuy, ouais, ou avec Christian Bobin. On est dans une simplicité, mais très, très, très rythmée. C'est, mm-hmm, assez étonnant. C'est pas facile, ça. Un petit exploit, je dirais.
J'avais lu quelques critiques. On nous dit ici un premier roman qui pourrait frôler le pathos si ce n'était de l'écriture poétique. Vous êtes d'accord avec ça? C'était dans la presse en février 2013. Une écriture poétique gracieuse et épurée. Exactement ce que vous venez de dire de Christine Eddy, de la grande humanité qui s'en dégage. Avez-vous un petit extrait?
Oui, je vous lirai le premier chapitre pour...
Oui, pour c'est pas facile avec les lunettes,
voilà,
le casque.
pour pas vendre de mèches et puis pour vous titiller un petit peu.
Parfait.
Alors, même quand elle se déroule au loin, la guerre profite toujours à quelqu'un. À Sainte-Palmyre, ce fut O'Brady. Guidé par l'odeur de pactole qui se tairait sous le moindre signe de rationnement, ils se lancèrent dans un marché noir d'aliments, brassèrent de la bière et, surtout, des affaires. Petit train va loin, et l'ancre qui signa l'armistice n'était pas encore sèche, que leur locomotive tirait déjà une rondelette fortune dont l'édification avait échappé à l'inspecteur des impôts. Comme une marée noire, leur pouvoir s'étendit sur des dizaines, puis des centaines et des milliers d'hectares. Fermes, abattoirs, épiceries, usines, auberges, à la fin, on ne compterait plus. Tout ce qui nourrissait la région finirait par leur appartenir. À Sainte-Palmyre, les Brady prendraient l'habitude de présider la table. De père en fils, cela irait de soi. Antoine, le rejeton de la première génération de ces Brady prospères, assurera le relais dès le moment où il se choisit une épouse parmi les filles de notables. Alexina, une nymphette un brin neurasthénique, mais au compte bancaire consistant. Leur opulence bien assise, Antoine et Alexina eurent deux enfants, une fille, May, et, Dieu soit loué, un garçon 3 ans plus tard. Ce qui autoriserait la nymphette à soupirer d'un air las quand le jeune Romain était présenté à d'illustres visiteurs, c'est le dernier enfant que j'aurai. Elle tint promesse.
Ah, extrait, je vous le rappelle, du livre signé Christine Eddy, Les carnets de Douglas. Elle vient d'en sortir un autre, là,
oui,
sur une jeune fille qui vit dans un enfer et un enfermement, hein, donc une jeune personne malade, hein, c'est ça. Ça vient de sortir sur papier, donc à mon avis, ça devrait se retrouver disponible au SQLA d'ici peut-être quelques mois. Michel Plomer, c'était que du bonheur de vous recevoir. Moi, personnellement, je recevrai bien comme ça toutes les semaines.
Merci beaucoup. Merci.
Et c'était un enchantement. Je voudrais rappeler que, de toute façon, je vais le redire aussi à la fin de l'émission, mais ne manquez pas la série Dragonville en 3 tomes. Et le tout dernier, Emploi, vient de sortir. Il est maintenant disponible au SQLA. C'était la raison pour laquelle j'avais invité Michel Plomer. À une prochaine fois, Michel.
Adieu, adieu la nuit, adieu tristesse, adieu les larmes. Je ne suis plus celui que tu as connu, plus le même. Oh, bel enfant qui a tant pleuré. Adieu, tout est fini, adieu les larmes, adieu la nuit.
Chapitre 3. Le classique de la semaine.
Oui, c'était un peu tiré par les cheveux, mon affaire Adieu Tristesse, pour nous amener vers Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'était l'image que j'avais eue ce matin en me levant. Tiens, ce serait bien de mettre un petit bout d'Arthur Ashe. Oui, c'est ce livre Bonjour Tristesse que j'ai choisi de revisiter pour vous. Quoique je trouve le mot revisiter un petit peu prétentieux, simplement peut-être nous le remettre en mémoire. Ce petit roman, magnifiquement écrit, qui met en scène, on s'en souviendra peut-être, je ne sais pas si mes invités, vous l'aviez lu
oui,
il y a sûrement longtemps, c'est
secondaire
ça.
Secondaire 3 peut-être.
Ah bon, bah c'est ça, voyez-vous. Alors c'est pour ça que cette chronique existe. Donc c'est un père volage, hein, qui, je vous le rappelle, qui emmène sa fille de 17 ans en vacances, en même temps que sa maîtresse. Et le joyeux trio alors, s'abandonne sans état d'âme aux futilités du farniente, à l'alcool, aux virées nocturnes. En tout cas, sa vie, ça bouffe la vie vraiment par tous les bouts. D'ailleurs, on nous dit aussi, c'est impossible de ne pas faire le lien entre cette jeune fille de Bonjour Tristesse et l'adolescente que fut Françoise Sagan, parce que sa sœur a dit que c'était vraiment une enfant pourrie gâtée et qui avait toujours vécu de toute façon bien au-dessus de ses moyens, même avant de gagner beaucoup d'argent avec ce premier roman, puisqu'elle nous a donné ce Bonjour Tristesse. Qui nous révélait un véritable talent d'écrivain, comme on le sait. Bon, rapidement, écoutez la vie de Sagan. Hein. Elle s'est liée d'amitié avec les plus grands, Sartre, Julien Green, Michel Déon. On sait que c'est une femme qui a été capable de tous les excès. Peut-être l'avez-vous vu, il y a un film formidable qui lui a été consacré. C'était en 2008 qu'il est paru et c'était Sylvie Testu qui jouait le rôle de Françoise Sagan. Ça s'appelle simplement Sagan. Alors voilà, j'avais envie simplement de vous remettre en mémoire les tribulations de cette jeune femme dans Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Et je suis très frustrée parce que je manque de temps pour vous lire un extrait. Mais ça va vous obliger à aller le rechercher au SQLA.